À l'heure des comptes, tous les soirs, un invité et une confrontation. Ce soir, vous avez choisi, Natacha, d'inviter le maire de Cannes, David Lisnard. Pourquoi ?
Parce que, d'abord, David Lisnard est une des figures montantes de la droite et on va lui poser quelques questions. Et puis, actuellement, on voit à Marseille une situation explosive. On voit des violences liées au trafic de drogue. Et, en effet, les leaders de droite s'expriment sur la question et font savoir qu'ils estiment scandaleux le traitement par le gouvernement. Or, la réponse de Gérald Darmanin, on l'a eue ce matin. On peut écouter.
Marseille est une des villes où il y a moins de caméras de vidéoprotection.
Des caméras.
Mais dans les quartiers nord de Marseille, où je vais tous les deux mois, en tant que ministre de l'Intérieur, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, il y a quasiment pas de caméras dans les quartiers nord de Marseille. Il y en a plus à Tourcoing qu'à Marseille, quasiment, des caméras dans ces quartiers nord-là, alors qu'il y a 300 000 habitants qui y vivent. Donc l'idée du parquet spécialisé est une bonne idée, peut-être, pour monsieur le maire de Marseille. Je dis à monsieur le maire de Marseille, dont c'est la compétence, qui doit mettre des caméras de protection dans sa ville. Et je le dis que nous sommes prêts à financer une très grande partie de ces caméras qui, pourtant, sont de sa compétence.
Voilà, ça c'était la réponse de Gérald Darmanin au maire socialiste de Marseille. La question c'est, David Lisnard, je ne sais pas si vous êtes avec nous, voilà, bonjour. Bonjour David Lisnard.
Bonsoir.
Pour commencer sur cette question marseillaise, vous qui êtes maire, comment voyez-vous la réponse de Gérald Darmanin? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a là l'image total de l'impuissance. On va mettre des caméras de surveillance. Gérald Darmanin, je le rappelle, sarkozyste, sur une ligne dure, ferme, ça veut dire qu'on a perdu.
Oui, enfin, vous m'enlevez ma réponse, c'est-à-dire que c'est effectivement le spectacle de l'impuissance publique qui fait tant de mal, d'abord concrètement sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont victimes de l'insécurité, on peut tous être victimes de l'insécurité, des trafics se développent, et puis parallèlement, ça pose le problème de l'efficacité institutionnelle. La sécurité, la moins mauvaise en tout cas sécurité, c'est du ressort de l'État, c'est une compétence régalienne, moi je suis attaché à ce système-là, les communes de France, avec les moyens dont elles disposent, interviennent dans un continuum de sécurité et apportent des moyens supplémentaires, y compris en vidéosurveillance. C'est un outil parmi d'autres. Mais objectivement, je pense que le problème est tellement lourd et grave qu'on doit échapper à ce type de querelle politicienne. Il y a des caméras, donc on l'a entendu, à Tourcoing. Il y en a partout dans les grandes villes de France. Cannes a le réseau de vidéosurveillance le plus dense de France par rapport au nombre d'habitants. Mais si derrière, il n'y a pas d'interpellation, s'il n'y a pas un exécutif qui exécute des décisions judiciaires, etc., on se retrouve face à l'impuissance et à du voyeurisme. Alors, derrière des caméras.
Enfin, justement, vous avez proposé, vous avez écrit plusieurs tribunes. Vous avez écrit plusieurs tribunes sur le sujet.
Oui.
Vous avez proposé, par exemple, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine pour les peines de moins de 2 ans, que les étrangers condamnés soient expulsés. C'est-à-dire qu'en gros, là aussi, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy que vous êtes en train de nettoyer. Parce que ça a été fait par Nicolas Sarkozy du temps où il était président de la République.
Mais moi, si vous voulez, je ne veux pas revenir à une espèce d'anachronisme et on peut commenter ce qui s'est fait de 2007 à 2012. Où il y avait quand même une amélioration des résultats en termes de sécurité. Moi, ce que je puis vous dire, c'est que je suis dans mon temps, dans mon époque, et qu'aujourd'hui, l'impuissance publique n'est plus explicable. Comment justifier qu'à une personne qui a eu plusieurs obligations de quitter le territoire français, qui a commis un acte criminel en incendiant une cathédrale, soit toujours en liberté et soit toujours en France alors qu'il est étranger. C'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut garder évidemment ce qui fait la grandeur d'une démocratie et d'une république, mais l'état de droit doit être adapté à la volonté et à la souveraineté populaire, et on doit être face à une réalité qui consiste à être efficace en termes de sécurité. Être efficace en termes de sécurité, c'est faire exécuter les peines. 30% des peines de prison ne sont pas exécutées pour les personnes présentes au tribunal. 75% des peines de prison prononcées pour les prévenus qui ne se présentent pas au tribunal ne sont pas exécutés. Enfin, c'est pas digne d'une démocratie. La démocratie, c'est le peuple, mais c'est aussi le pouvoir, c'est aussi l'autorité.
Vous avez prononcé des mots extrêmement importants. Vous dites que l'état de droit doit finalement se soumettre à la volonté populaire. Pour le traduire en termes clairs, ça veut dire que cette impuissance que nous constatons, vous l'attribuez en fait à des règles de droit qui seraient inadapté et au fait que des juges décident d'interpréter le droit. On va être clair, le Conseil constitutionnel, par exemple, quand il censure un article de la loi séparatisme, le 13 août dernier, l'article 26, qui dit qu'on ne doit pas délivrer de titre de séjour à des gens qui n'adhèrent pas aux valeurs de la France, de la République. Ça, par exemple, c'est une décision qui, ensuite, produit de l'impuissance politique. Vous faites comment pour empêcher que le Conseil constitutionnel joue ce rôle de censure, que le Conseil d'État joue son rôle ?
Alors, il faut que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État jouent leur rôle, évidemment. Mais lorsqu'il y a une telle contradiction entre la volonté populaire d'efficacité et des interprétations de procédures juridiques, parce qu'on en est là, hein, il faut évidemment trancher et à la fin qu'il y ait un juge de paix. Et le juge de paix, c'est le peuple, soit par référendum, soit par une procédure parlementaire adaptée. Mais on ne peut pas rester dans ce constat d'impuissance, parce que l'impuissance publique, c'est ce qui génère l'arbitraire. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français moyens, sont soumis à l'exécution des règles et des lois, et c'est normal. Mais le sentiment d'impuissance et d'impunité à l'égard de voyous ou à l'égard aussi d'une délinquance en col blanc parfois, qui a un gros relationnel, etc., est le fruit de l'arbitraire, de l'injustice, et ça, c'est pas acceptable. L'injustice, c'est la mère de toutes les révoltes. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire de démontrer que la démocratie, qui est la meilleure des garanties des libertés publiques et des libertés individuelles, n'est pas un système d'impuissance public qui génère la situation de quasi-chaos dans laquelle on est, parce qu'on parle de Marseille. Mais du deal, il y en a partout. Il y en a à Cannes, il y en a à Paris, il y en a partout, dans les villages, il y en a partout.
Donc,
du deal
si
et des agressions.
Bien, si un candidat de droite gagne en 2022, il va renégocier les traités européens pour faire en sorte que la Cour européenne des droits de l'homme ne prenne pas des décisions dans le sens actuel, qui est un sens plutôt, on va le dire gentiment, très laxiste. On va réviser la Constitution pour que le Conseil constitutionnel ne puisse pas censurer systématiquement le gouvernement. C'est ça qui va se passer, puisqu'on entend Xavier Bertrand, Valérie Pécresse s'exprimer sur ces questions, dire qu'il faut sortir de la laïcité.
C'est ce que j'ai exprimé à plusieurs reprises, par écrit, en travaillant ces sujets-là, et pour montrer que notre démocratie, elle n'est pas fossilisée, mais elle est vivante et elle s'adapte à la réalité du 21e siècle. Et puis, on doit porter une ambition sur tellement d'autres questions. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de porter une ambition de prospérité économique, c'est de porter une ambition sécuritaire avec un État recentré sur le régalien et qui exécute et de sortir du théâtre politique de l'émotion, des effets d'annonce, des grands barnums et déplacements qui ne concernent pas que ce gouvernement.
Ça fait 40 ans qu'on est géré comme cela. Et puis, une ambition civilisationnelle aussi. Quand, par exemple, Xavier Bertrand dit qu'il faut interdire le salafisme, comme le dit Natacha, en fait, interdire le salafisme aujourd'hui, c'est pas possible. On sait que le Conseil constitutionnel ne rendrait pas cela possible. Hein. Pour l'instant, il y a seuls les agissements violents, la provocation d'agissements violents qui peuvent mener à la dissolution d'une association. Donc, quand il dit ça, en fait, il dit quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui. C'est pas de la simple démagogie, ce discours ?
Non, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que une fois qu'on arrive à être d'accord sur des constats, c'est très difficile. Il y a un problème de salafisme en France. Il y a un problème d'islamisme radical. Ensuite, on a la deuxième étape qu'il faut franchir, c'est celle du fatalisme. Or, si on a réussi à dissoudre diverses organisations, y compris identitaires, et ça a été validé par le Conseil d'État, il me semble que les organisations salafistes aujourd'hui, et notamment aussi chez les frères musulmans, parce qu'on parle des salafistes, mais dans la réalité, c'est de plus en plus des dérivations des frères musulmans qui ont beaucoup plus d'engagement politique sur le terrain qui sont dangereuses. Il faut évidemment que ce soit étayé judiciairement. On n'est pas dans l'arbitraire, mais il est possible de démontrer que ces organisations, ce sont des organisations séparatistes, parfois terroristes, et qui alimentent une haine de la France et du pays. Si on n'arrive pas à répondre à des choses aussi simples que cela, c'est pas la peine de faire de la politique, si vous voulez. On regarde le pays continuer de s'écrouler, on pleure à chaque attentat, on met des bougies, mais il faut sortir de cela. Et ça, c'est pas de la démagogie. Si à chaque fois qu'on essaie d'apporter une solution et de proposer les moyens qui passeront par des évolutions législatives, qui passeront par des évolutions également sur la Constitution. Mais il n'y a pas que moi, hein, Guillaume Larrivé, d'autres proposent des référendums pour adapter la Constitution aux réalités de l'époque. Mais une organisation qui a des ramifications séparatistes, voire violentes, n'a pas sa place, évidemment, en France. De même qu'on ne peut plus accepter l'impuissance en matière l'immigration. Et plus l'État consomme des prélèvements, des impôts et des charges, on a le record du monde des impôts et des charges, moins il est efficace sur les missions pour lesquelles il a été inventé. C'est plus acceptable.
Donc, David Lisnard, vous produisez ces derniers temps beaucoup de textes, beaucoup de tribunes, des propositions. Vous avez fondé un mouvement Nouvelle Énergie. Oui. Vous avez dit le 15 août que vous pourriez faire partie des candidats à la primaire. Il faut se déclarer avant le 30 août. Vous êtes candidat à la primaire pour porter ce projet-là, plus votre projet sur la lutte contre la bureaucratie
Moi, je ferai valoir mes propositions et mes idées. Donc, objectivement, je connais toujours pas spécialement et précisément les règles. Je crois que personne ne les connaît, mais je fais confiance à Jérôme Lonetti, qui est
quelqu'un d'intelligent
et de raisonnable. Mais ouais, il faut se dépêcher. Oui, mais moi, je me dépêche de faire avancer mes idées. Et dans le système dans lequel on est, et c'est ce que je découvre aussi au gré des mois, avec un peu plus d'exposition nationale, c'est que le prisme, ce qui vous permet de partager les convictions, d'essayer de porter le projet contre la bureaucratie, je suis content de voir que c'est repris, et tant mieux, passe par le fait d'exister politiquement. Donc, il est très probable que je sois sondé dans les personnes qui seraient susceptibles ensuite d'aller à la primaire, puisque la première étape, c'est cette étape du sondage qualitatif. Et puis ensuite, il y aura une démarche plus sur la primaire qui devrait être validée fin septembre, si j'ai bien compris. En tout cas, moi, je mènerai mes convictions. Je n'ai pas de plan de carrière personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de porter un projet, d'apporter une alternative à ce que je crois être le techno-étatisme très conformiste dans les actes et très impuissant dans la réalité, mais très emphatique, très exagéré dans les discours du pouvoir en place. Et puis la démagogie des extrêmes qui ne flattent que les humeurs.
Vous êtes un des rares à vous exprimer sur l'école, les choses comme ça. Vous parlez de culture. Oui. La droite ne pensait plus. C'est pour ça que vous essayez de produire un programme.
C'est toujours une drôle de façon de poser les questions par la négative. La droite ne pense plus. La droite, c'est pas une personne humaine, et vous le savez bien. Il y a plein de gens bien partout, à gauche, à droite, au centre, ou qui se retrouvent plus dans ces clivages, qui pensent heureusement, y compris à droite. Et en tout cas, moi, ma petite personne, par mon parcours de vie, parce que je sais que le sport et la culture permettent de s'émanciper individuellement, de s'élever, mais aussi de créer une unité civilisationnelle autour d'un patrimoine, d'une transmission, des grandes œuvres de l'esprit. Tout n'est pas culturel, et il me semblait, je trouvais, et c'est ce qui nous a réunis avec Christophe Tardieu, mon co-auteur, que ce n'était plus assez présent dans le champ politique. Donc d'essayer de porter une ambition autour des grandes œuvres de l'esprit, de dire que la France, dans le monde d'aujourd'hui, peut et doit être une superpuissance culturelle, montrer le déclassement éducatif, mais porter une ambition sur l'instruction publique autour d'apprentissage des fondamentaux qui sont plus que jamais nécessaires. Il est beaucoup plus utile pour nos enfants et futurs petits-enfants d'apprendre à décoder le monde, d'apprendre les humanités, la raison critique, que de coder de l'informatique. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont dans la Silicon Valley ou qui font le monde d'aujourd'hui le savent. Et là-dessus, on a énormément d'atouts que l'on gâche parce qu'on est victime du pédagogisme, on est victime de toute cette idéologie de déconstruction post-68arde. Et donc, ce combat-là, il doit être mené. C'est une ambition positive pour l'avenir du pays à travers la culture et l'instruction pour l'avenir de nos enfants. Et si parallèlement, on arrive à alléger le poids de l'État sur la création entrepreneuriale, et si on retrouve de l'autorité régalienne, la France peut retrouver sa place et on peut retrouver une espérance collective, une espérance commune, et c'est ce qui doit nous motiver dans l'engagement politique.
Merci David Lisnard. Il faut
le décliner très concrètement, c'est ce que je vais produire.
Merci.
Dans les prochaines semaines. Merci
à vous. Il est très probable qu'il y aura sans doute.
Il a l'air vraiment.
Il a l'air de vouloir y aller.